À quelques semaines de la fin de la guerre, il fallait remonter le moral des soldats allemands encerclés par les Alliés dans les poches de l'Atlantique. Jusqu'au dernier jour du Troisième Reich, Goebbels aura donc utilisé le cinéma comme un instrument de propagande. Mais il n'a pas été le seul. Entre 1935 et 1945, avant et pendant la guerre, en Allemagne, mais aussi en Italie, en Russie, en France occupée et même aux États-Unis, le cinéma a servi à mobiliser l'opinion pour le meilleur ou pour le pire, pour la défense de la démocratie ou au contraire pour justifier l'expansionnisme et le racisme des régimes fascistes. C'est ainsi que dès 1935, quand la caméra de la réalisatrice allemande Leni Riefenstahl a filmé le congrès du parti nazi à Nuremberg, l'usine à rêve s'est mise à fabriquer des cauchemars.
Und du, Kamerad, aus Bayern. Und du, vom Kaiserstuhl, aus Dresden.
Ein Volk, ein Führer, ein Reich, ein Land.
J'ai tourné ces images, comme on tourne des images, sans me poser de questions, sans penser à leur impact. Pour moi, l'important était de faire de bonnes images. Mais je ne me suis pas soucié de l'effet qu'elles produiraient.
Marc Ferraud, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre, Le cinéma, une vision de l'histoire, ou comment depuis sa naissance le cinéma représente l'histoire, mais dans le cas des films de Leni Riefenstahl, que l'on vient d'entendre, qui est morte il y a quelques jours, c'est vraiment le cinéma lui-même qui a fait l'histoire, hein, quand il devenait de la propagande. Ces films, Le triomphe de la volonté, dont on a entendu un extrait, ont vraiment exalté le régime nazi, et de manière très efficace. Et contrairement à ce qu'elle a dit, on l'a entendu, elle savait très bien ce qu'elle faisait, Leni Riefenstahl.
Elle savait très bien ce qu'elle faisait, et Goebbels savait très bien ce qu'il lui demandait. Parce que l'idée centrale de Goebbels, c'est de faire du pouvoir un spectacle. Que le peuple allemand soit fasciné par ce qu'il voyait, et ce qu'il verrait s'identifierait au Führer. Autrement dit, elle pouvait dire qu'elle ne faisait pas de propagande, mais elle faisait un spectacle qui servait le Führer. D'autre part, il faut quand même me dire, de façon désagréable et méchante, que bien des cinéastes ont toujours dit qu'ils ne faisaient pas de politique. Il y en a un très grand nombre. Je ne veux pas parler de Renoir, qui a fait des films colonialistes, puis des films Front Populaire, puis qui a failli faire un film pour Mussolini. Et de l'autre côté aussi. Car rappelez-vous le grand Melville, quand il a fait ce film admirable sur la résistance. Il disait, moi je ne fais pas de politique.
Alors cela dit, Marc Ferraud, dans le cas de l'Allemagne, revenons deux minutes à l'Allemagne, il n'y a pas eu que Leni Riefenstahl, c'est peut-être celle qui a le mieux symbolisé ces films de propagande en Allemagne, mais il y a eu, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours dans cette émission, le Jifsus de Veit-Arlan, et puis il y avait aussi les actualités. Goebbels y attachait peut-être encore plus d'importance, d'ailleurs, parce que c'était des films d'actualité, hein, plus d'importance, c'était vraiment mise en scène, plus d'importance peut-être qu'aux films de cinéma de propagande. Il n'y en a pas eu tellement dans l'Allemagne nazie, purement de propagande.
Il y en a eu les dernières années, c'est-à-dire surtout à partir de 1938, jusqu'à la fin de la guerre, mais pas au tout départ, parce que Goebbels considérait que la propagande était un art, qu'il fallait donc faire appel à des artistes, et il pensait que les artistes, de façon réticente, glorifieraient peut-être le régime, mais pas comme il fallait. Donc il ne s'est résolu à commander des œuvres de pure propagande, ce que vous avez cité, que sur le tard, et parce que son ennemi Rosenberg disait « Mais c'est les films qu'on fait, c'est des comédies, on s'amuse trop, il faut durcir le peuple allemand. » Et Hitler avait un peu ce point de vue. Pour les actualités, c'est la même chose. Hitler reprochait aux premières actualités allemandes de ne pas être assez dur. Goebbels voulait, en quelque sorte, les encadrer de petites comédies, de petites scénettes pour distraire les gens. Et Hitler disait non, et c'est pour ça que les actualités sont devenues de plus en plus raides.
Alors les Allemands n'étaient pas les seuls à cette époque à se servir du cinéma et de l'histoire à des fins de propagande. Mussolini en faisait autant. Écoutez cette archive italienne. Mussolini venant en 1936 assister au tournage du film de Carmine Gallone, Scipion l'Africain, l'histoire donc de ce consul romain qui au IIIe siècle avant Jésus-Christ avait détruit Carthage.
Questo
fervido cantiere della più importante ripresa del
Le plateau du plus prestigieux tournage du cinéma national a été honoré par la visite du Duce. Le Duce est monté sur une estrade dominant les 10 000 figurants armés. Le réalisateur Carmine Gallone lui a montré les caméras cadrant les armées de Scipion, les éléphants cuirassés et les mercenaires d'Annibale. Préparez-vous à la guerre. Bataillon. La victoire ou la mort.
Alors c'était Scipion l'Africain, l'extrait du film donc produit à l'époque de Mussolini, hein, Scipion l'Africain, le vainqueur d'Annibale. Scipion d'ailleurs qui était joué dans ce film par un comédien italien au prénom prédestiné, il s'appelait Annibale Ninci. Et alors évidemment, bon, en mettant en scène cet épisode très ancien de l'histoire romaine, Marc Ferro, le Mussolini ne faisait pas ça par hasard, et Carmine Gallone non plus.
Non, il voulait glorifier la résurrection de l'Empire romain, dont il serait en quelque sorte le...
C'était l'année de la guerre d'Éthiopie, de la conquête de l'Éthiopie.
C'est l'année de la guerre d'Éthiopie et c'est l'année où il y a plusieurs films, n'est-ce pas, sur la Méditerranée italienne, sur la renaissance de cet empire qu'il va créer à nouveau. Avec cette différence, vis-à-vis de, on parlait tout à l'heure des Allemands, que les actualités italiennes pendant la guerre parlent presque de tout sauf de la guerre.
Oui.
Quand on les regarde, on se demande si les Italiens sont en guerre. De temps en temps, il y a une bataille navale qu'on aperçoit, mais presque rien sur la Grèce, presque rien sur la Russie, presque rien sur rien, si j'ose dire. Les actualités devaient écarter les Italiens et on comprend qu'ils n'aient pas été toujours très 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 engagés dans le conflit mondial.
Vous les connaissez bien, les actualités, vous les avez commentées pendant très longtemps dans l'histoire parallèle, hein, Marc Ferro. Alors, cela dit, le cinéma italien se portait pas mal. Il y a beaucoup de grands réalisateurs de l'après-guerre qui ont commencé à tourner sous Mussolini, Visconti par exemple.
Oui, parce que d'une certaine façon, paradoxalement, il régnait une certaine liberté dans les studios. Et Visconti, comme d'autres, ont pu faire des films qui, aujourd'hui, apparaissent comme les chefs-d'œuvre, si je puis dire, de ce cinéma des années 30, 40, et qui ont poursuivi leur carrière ensuite. Et on ne les a pas poursuivis parce que ces films étaient, d'une certaine façon, politiquement justes.
Alors, il n'y a pas que les régimes fascistes, hein, qui ont fait du cinéma un instrument de propagande. Tous les régimes totalitaires en ont fait autant, y compris le régime stalinien, qui, à la veille de la guerre, pour mettre en garde les Russes contre le danger allemand, demandait au cinéaste Eisenstein de mettre en scène une vieille histoire, celle d'Alexandre Nevsky, un prince du XIIIe siècle qui défendait les Russes contre les chevaliers teutoniques, 7 siècles avant que Staline ne les défende contre les Allemands.
Frère de Novgorod. L'Allemand a pris Pskov et marche sur vous. Il partage la Russie entre les chefs allemands. À l'un Pskov, à l'autre Novgorod. L'Allemand, c'est la mort. Il faut appeler Alexandre pour battre l'Allemand. Commande, prince, les guerriers de Novgorod. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui 1935-1945, le cinéma de propagande.
Et c'était les paroles et la musique de Prokofiev, tirées du film d'Eisenstein en 1938, Alexandre Nevsky. Bon, il est évident, on le comprend tout de suite, que même s'il y a 7 siècles d'écart entre les deux, Alexandre Nevsky, c'est Staline en 1938, au moment
où... C'est la Russie.
Et la Russie.
Qui se défend contre l'Allemagne.
Oui.
Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que... Eisenstein a compris tout de suite le message. D'ailleurs, il partageait les idées de la plupart des soviétiques à cette époque. Il était anti-allemand, n'est-ce pas? Et donc, il voulait même que les chevaliers teutoniques soient, et devant eux, des croix gammées, et non pas les croix teutoniques. D'autre part, il a un peu falsifié l'histoire, n'est-ce pas, comme le font la plupart des cinéastes, en ce sens qu'il a omis de rappeler que Alexandre Nevsky était un saint.
Oui.
Donc, il avait une identité religieuse. Il en a fait un pur laïc.
Cela dit, Staline se faisait appeler le petit père des peuples, hein, comme les tsars autrefois. C'était vraiment extraordinaire. On était en régime communiste.
Oui, mais enfin, disons que les classes populaires qui, grâce à la terreur, avaient vu peu à peu leur statut s'élever et peu à peu le régime était devenu un régime populaire plébéien, ces classes populaires en étaient reconnaissantes à Staline. D'ailleurs, on voit bien que, contrairement à ce que nous croyons, elles ont effacé le goulag de leur mémoire et beaucoup de gens très âgés continuent à adorer Staline.
On dit souvent, Marc Ferraud, que en matière d'art en général, de cinéma en particulier, les régimes totalitaires ne donnent que des croûtes ou des navets. On peut dire qu'avec Eisenstein, c'est pas le cas. Et même beaucoup de films de propagande étaient quand même de qualité sur le plan purement cinématographique, indépendamment évidemment de leur contenu.
Oui, parce qu'on pense à l'académisme. Par exemple, on pense qu'à l'époque de Napoléon, si vous voulez, un homme comme Napoléon n'était pas digne ou apte à gérer l'art. Donc, comme on identifie les tyrans du XXe siècle à tous les dictateurs du passé, on croit que... Mais en fait, en Russie comme en Allemagne, il y a eu des films qui ont été des chefs-d'œuvre, il faut le reconnaître.
Alors, la propagande n'est pas le monopole des régimes totalitaires, fascistes ou staliniens. Il y a eu aussi une intense activité, on peut le dire, de propagande dans un cinéma américain avant même la guerre. Il y avait, il faut le rappeler aussi, beaucoup de réalisateurs ou de comédiens qui avaient fui les régimes totalitaires européens et qui étaient à Hollywood. Et c'est les premiers, c'est même les seuls quasiment à se manifester avant même 1940 contre le nazisme.
Oui. En France, il n'y a pas de film anti-nazi. Il y a des films anti-allemands, comme Double Crime sur les Maginots, mais il y a une...
Des films pacifistes aussi.
Oui, il y a pacifistes. Il y a des films pacifistes, mais il n'y a pas de film anti-nazi. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en France, la main des cinéastes et des hommes politiques tremble. Ils ont peur du nazisme. Et peut-être que ça annonce la collaboration. C'est pas... Donc en France, il n'y a pas de film anti-nazi. En Angleterre non plus. Ou quand même, à un certain moment, il y a eu une connivence possible entre les Anglais.
Donc on ménage Adolf Hitler. Ouais.
Alors qu'aux États-Unis, de façon très très forte, il y a eu des émigrés, c'est vrai, mais ces émigrés avaient d'abord été en France, et en France, on leur a pas donné le droit de faire des films. Ou la possibilité.
Cela dit, c'était quand même, je crois que le gouvernement américain était un peu gêné, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'adversaires de la guerre aux États-Unis, beaucoup d'émigrés italiens ou allemands de vieille date qui avaient quand même de la sympathie pour les régimes mussoliniens ou hitlériens. Hein. Il y a eu des gens aux États-Unis qui n'aimaient pas tellement cet engagement du cinéma américain contre les pays d'Axe.
C'est vrai, il y avait une guerre civile au sein du monde du cinéma et au sein de l'opinion. À cette époque, dans les années 37-40, si vous voulez, il n'en reste pas moins qu'il y a à cause des États-Unis qu'on a fait un film comme J'étais un espion nazi. Il y a à cause des États-Unis qu'il y a eu le film de Chaplin.
Oui, alors...
Et ensuite, Roosevelt, convaincu par un film de Joris Ivens sur la guerre d'Espagne, que le vrai danger, c'était le fascisme et le nazisme, c'est Roosevelt en personne qui a inscrit de sa propre main un programme de films de propagande.
Alors vous avez cité Chaplin, Marc Ferraud, évidemment le plus connu des films anti-nazis de l'époque, en 1940, c'était le fameux dictateur de Chaplin.
Soldiers, don't give
soldats, ne vous donnez pas des brutes, des hommes qui vous maîtrisent et vous traitent comme des esclaves, qui régimentent vos vies, vous disent ce que vous devez faire, penser, ressentir, qui vous affament, vous traitent comme du bétail ou de la chair à canon. Ne vous donnez pas à ces hommes contre nature, des hommes machines. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas du bétail, vous êtes des hommes. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, battez-vous pour la liberté, battons-nous pour un monde nouveau. Les dictateurs se libèrent eux-mêmes et soumettent le peuple en esclavage. Battons-nous pour libérer le monde, pour nous débarrasser des frontières, de l'avidité, de la haine, de l'intolérance. Battons-nous pour la raison. Battons-nous pour un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes au bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous.
Alors c'était la fin du dictateur, le célèbre discours. Alors évidemment c'est des paroles très belles, très graves. Cela dit, tout le film était plutôt sur le ton humoristique. On se souvient, Chaplin se moquant véritablement de Hitler et de Mussolini. À tel point même qu'on a reproché au fond à Chaplin, ça avait de ne pas prendre assez au sérieux ce qui était un véritable danger.
Oui, mais c'est surtout le fait que quand ce film a été fait, on n'avait pas la mesure du génocide. Il n'avait pas eu lieu vraiment encore. Il y avait des camps de concentration sans doute, mais il n'y avait pas encore eu de massacre. Par conséquent, ce film a pu apparaître dans les années 45-48 comme un peu léger. Et aux États-Unis, on ne l'a pas apprécié autant que nous aujourd'hui, si vous voulez, parce qu'au fond, il était anti-nazi, mais Charlie Chaplin n'avait pas encore la réputation d'un penseur de l'histoire. On voyait en lui un comique. Et surtout quelqu'un qui critiquait la société américaine. Donc il n'avait pas tous les suffrages pour lui, et il avait des ennuis avant de pouvoir projeter son film.
On n'a pas vu en France non plus d'autres films pendant la guerre qui, là, avec carrément le soutien du gouvernement de Roosevelt, sont carrément des films de propagande anti-nazi, anti-japonais aussi. Il y a eu ce fameux film de Capra, qui était plus d'ailleurs un documentaire fait avec du montage d'archives allemandes ou japonaises, et qui s'appelait « Pourquoi nous combattons, je crois ».
Oui, mais ça a été fait, mais on ne l'a vu, nous, qu'après-guerre.
Ouais. Et Capra était colonel. Hein. C'est-à-dire, on avait mobilisé le cinéma aussi.
On a mobilisé le cinéma, et comme je vous le disais, j'ai vu moi-même, signé de la main de Roosevelt, un catalogue des films de propagande à faire. Il fallait qu'il y en ait 2 ou 3 en faveur de la France, il fallait qu'il y en ait 4 ou 5 en faveur de l'Angleterre, 1 en faveur de la Norvège, etc., et 2 en faveur de l'URSS, n'est-ce pas, pour la réhabilité.
Oui, parce qu'on voit des films, à l'époque, on les revoit encore de temps en temps sur quelques chaînes de télévision, on voit des films où l'URSS, qui est forcément l'allié, est littéralement encensée. On est avant la guerre froide.
Voilà, elle est encensée, et il y a même un film comique, puisque pour montrer que c'est un allié fiable, on montre des campagnes russes, n'est-ce pas, où pullulent les petits cochons et les oies, plus peut-être qu'il n'y en a jamais eu dans tout le pays pendant ces années-là.
Alors ces films, Marc Ferraud, évidemment, on ne les voit pas dans la France occupée, où le cinéma est quand même extrêmement florissant. Je crois que 220 films ont été tournés en France pendant la guerre. La plupart, d'ailleurs, n'étaient pas des films de propagande, hein, mais ils étaient contrôlés. D'abord, il y avait la censure, et puis il y avait la fameuse Continental, cette maison allemande qui contrôlait le cinéma français.
Non, il n'y a pas eu de films de propagande. Les films de propagande, c'était les documentaires.
Oui.
Alors ces documentaires, en plus, je dois ajouter comme témoin cette fois qu'on... Ils n'ont pas eu beaucoup de succès. On ne les voyait pas. On sortait. On huait les actualités. Et à ce moment-là, la police entrait, on allumait les salles. Et au moment des documentaires, comme c'était eux des films de propagande, les gens restaient dehors et ils ne revenaient que pour le grand film. Par conséquent, on parle beaucoup plus de ces films de propagande qui étaient donc des documentaires, qu'ils n'ont été vraiment vus par les Français.
Enfin, c'était des documentaires ou des choses qui se présentaient comme telles. Il y a eu Le Juif Sus, le film allemand qui a été projeté.
C'était pas un documentaire.
Non, c'était un film. Mais il y a eu aussi un film qui se voulait documentaire et qui est sorti en salle en 1943, qui s'appelait Les Forces Occultes, un film qui était très antisémite, anti-maçonnique, un film de Paul Rich, destiné évidemment à rendre les Juifs et les francs-maçons responsables de la guerre contre l'Allemagne, un film qui depuis 60 ans n'a jamais été projeté dans les salles ou à la télévision. On en écoutera quelques extraits, mais on comprend pourquoi quand on voit à quel point les dialogues sont écœurants. L'action donc de ce film de 1943 est censée se passer dans une loge maçonnique juste avant la guerre en 1939.
Pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France? Mon frère, vous n'avez pas la parole. Peu m'importe, mais je tiens à dire, aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué.
Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère.
Non, je le direz immédiatement, avant d'entendre des stupidités bellicistes.
Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre.
Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les Juifs, et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie.
C'était donc un extrait du film Les Forces Occultes, un film de propagande tourné en 43 en France occupée, dont l'objectif est limpide. D'ailleurs, il suffit de lire les commentaires de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Alors, le 9 mars 1943, le film Forces Occultes est présenté pour la première fois au cinéma des Champs-Élysées à Paris en grande pompe, avec en première partie un court-métrage avec Fernand Delle. Alors, est présent dans la salle Fernand de Brinon lui-même, le représentant de Vichy à Paris. Hein. C'est normal puisque le film, présenté, je cite, comme un document de vulgarisation sur une question d'intérêt national, est une commande de Vichy via le service des sociétés secrètes, chargé justement de l'éradication des sociétés secrètes, dont la franc-maçonnerie. Alors, c'est un de ses membres, Jean Marques Rivière, qui a été confié la rédaction du scénario, et c'est lui qui, le soir de la première, présente le film. Alors, un discours, on ne cherche même pas à cacher qu'il s'agit d'un film de propagande, vous allez voir. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, mes chers camarades, j'ai l'honneur de vous présenter le film Anti-maçon, Forces occultes. Ce film veut être un acte politique, il veut être aussi un acte révolutionnaire. Dans le silence de l'agonie de la France, il veut être enfin un cri d'alarme. Puis ce film, est un film de combat, rassembler les énergies encore hésitantes pour les dures et décisives batailles de demain. Ah, pour Jean Marques Rivière, donc le scénariste, le cinéma d'ailleurs n'est que cela, hein, un outil de propagande. Il dira en effet plus tard,
Ce film, je l'ai voulu précis et très dur. Il fallait, pendant 30 minutes, montrer aux foules de cinéma le problème maçonnique. Et il ajoute cyniquement, vous savez tous ce que représente une foule de cinéma le samedi soir. Pas très joli. Bon. Alors le film, on s'en doute, est très bien accueilli par la presse de la collaboration. Pour la première fois de son histoire, écrit par exemple Le Matin, la maçonnerie subit la dissection publique, la divulgation, la dispersion brutale de ses oripeaux, de ses appétits, de ses fantoches. Forces occultes, bain de vérité, est un acte courageux et salubre. Pour le Petit Parisien, le journal le plus lu de l'époque, Forces occultes, documentaire précis, attachant, qui sait ménager le mystère, est une anecdote calquée sur tous ces critères maçonniques, demeurés chaque fois impunis. Les scènes minutieusement reconstituées respirent la vérité. Un film techniquement parfait aussi pour l'œuvre, le journal de Marcel Déat, tandis que Jacques Doriot, dans Le Cri du Peuple, ne doute pas que le film atteindra son objectif. Un gros succès, dit-il, une très utile propagande.
Je ne sais pas si c'était un gros succès, hein, Marc Ferraud. Un commentaire peut-être sur ses commentaires sur Forces occultes.
Écoutez, moi je connais personne qui ait jamais vu ce film.
Hein. Oui, personne surtout depuis, parce qu'il a été...
Non, mais depuis...
Mais à l'époque non plus. Hein,
à l'époque non plus.
C'est trop grossier peut-être, non?
Non, c'est qu'il y avait un refus de voir ces types de films et les gens sortaient. Ce qui était beaucoup plus actif, c'était la propagande écrite. D'ailleurs, les écrivains collaborationnistes, il était PPF, hein, le réalisateur du film.
Ouais. Parti populaire français, oui, c'était un parti collaborationniste.
Les écrivains collaborationnistes, eux, ont stigmatisé le cinéma de ne pas avoir su faire des films de fiction, donc qui intéresseraient le public, et seulement de faire des films de documentaires qui, d'une certaine façon, sont toujours un peu fastidieux. Or, ce film-là, on le connaît, on en parle depuis 50 ans, mais personne ne l'a vu, et c'est peut-être mieux ainsi.
Bon, on l'a entendu, en tout cas, on a entendu un très bref extrait, mais de toute façon, il est très court, hein. Il faut qu'il ait été amputé, parce qu'il était tellement outrancier que même les autorités de l'époque l'avaient amputé. Cela dit, est-ce qu'on a une idée, Marc Ferraud, parce que ces films de propagande, sinon celui-là, d'autres ont été efficaces, est-ce qu'on peut mesurer l'impact qu'ils ont pu avoir, aussi bien en France occupée, qu'en Allemagne, qu'en Russie, ou même aux États-Unis? Et quelle était la vision qu'avait du cinéma de propagande des gens aussi différents, bien sûr, que Roosevelt, Staline ou Hitler?
Bien, disons que pour Goebbels et Hitler, comme je vous l'ai dit, il s'agissait de mettre en scène ce qu'on faisait pour donner au nazisme la grandeur d'un spectacle auquel on adhérerait. D'ailleurs, les Allemands suivaient le nazisme d'un cœur croyant, n'est-ce pas? C'était le but.
Pas tous, quand même.
La majorité, disons. Ou ceux qui ont été obligés, ils avaient un cœur croyant. Ce n'était pas la raison qui les guidait. Chez Staline, c'était très différent parce que, dans le régime communiste, le cinéma devait faire, comme ça a été dit tout à l'heure, de l'agitation. Ça devait, en quelque sorte, faire agir les gens. Il ne s'agissait pas de s'imbiber du régime, il s'agissait d'agir. Et ces films ont eu un certain succès, mais En URSS, on ne peut pas dire que le cinéma a été le principal agent de la propagande. Ce n'est pas l'image. Les Russes, qui étaient des gens à cette époque qui allaient à l'école, se développaient intellectuellement, etc., etc., c'est par le livre, n'est-ce pas? C'est par l'affiche, c'est par les textes qu'en quelque sorte ils étaient manipulés, beaucoup plus que par les films. Bien. Quant à Roosevelt, alors c'est exactement le contraire. Roosevelt ignorait complètement le cinéma. C'était une sorte d'intellectuel qui méprisait tout ce monde, mais c'est ce monde du cinéma qui s'est intéressé à lui, en faisant en quelque sorte la propagande de sa campagne électorale. Et du coup, l'œil de Roosevelt s'est allumé, et au Causerie au coin du feu, qu'il avait eu l'idée d'inaugurer, ce que fera Mendès France bien plus tard en France, au Causerie au coin du feu, qui était son invention, si je puis dire, de propagande, il a peu à peu substitué le cinéma, et comme je vous disais, il a alors soutenu Capra, Ford, etc., pour qu'on fasse des films, n'est-ce pas, sur tous les terrains, la famille américaine, la démocratie, les alliés, etc. Et c'est lui qui s'est le plus engagé, si je puis dire, j'allais dire presque plus que les autres, qui, d'une certaine façon, n'avaient pas mesuré ce qu'on pouvait faire avec des films drôles et de fiction.
Et parfois très beaux, comme Casablanca, qu'on n'a pas cité, enfin, il y en a beaucoup de cette époque. Merci en tout cas, Marc Ferraud. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, Cinéma, une vision de l'histoire, un livre magnifiquement illustré, et qui a été publié aux éditions du Chêne. Vous avez également écrit Cinéma et Histoire, publié chez Folio Histoire, ainsi que, sans rapport avec le cinéma, Le Choc de l'Islam, qui vient d'être réédité chez Odile Jacob, enfin, Histoire de France, paru chez le même éditeur, donc Odile Jacob, et signé par Marc Ferraud, donc qui était mon invité aujourd'hui. Alors, il y avait bien sûr beaucoup d'extraits de films dans cette émission, dont Alexandre Nevsky d'Eisenstein, Forces occultes de Paul Rich, Le Dictateur de Chaplin, ainsi qu'un extrait d'un documentaire de Sandra